Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous le monde. Aujourd'hui, édition du lundi 13 octobre 2014 en direct de Washington. Bagassi Kouraï, Anne Alberson, bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, épidémie d'Ebola au Libéria, les travailleurs de la santé menacent d'entamer une grève aujourd'hui s'ils ne reçoivent pas des primes de risque revalorisées. Et en Guinée, on veut multiplier la sensibilisation des populations.
Au moment où je vous parle, il y a deux personnes de Conakry qui sont parties s'infecter à Massanta. Ils étaient partis pour des sanitations post-mortem, alors qu'à la radio, on a dit de ne pas le faire.
Voilà, en RDC, nous allons nous pencher ce matin sur l'enlèvement de personnes, un phénomène devenu monnaie courante au nord, au Kivu. En République centrafricaine, le Premier ministre Mahamat Kamouna a appelé ses compatriotes à reprendre normalement les activités ce matin. Appel qui intervient après plusieurs jours de violence dans Bangui au Cameroun. Le gouvernement dément les rumeurs de paiement de rançon pour la libération ce week-end de 27 otages de Boko Haram.
Ceci était simplement de l'invraisemblance des déclarations qui sont postées sur Internet ou qui viendraient des uns et des autres.
Le 15 octobre, c'est l'anniversaire de la mort de l'ancien président Thomas Sankara au Burkina Faso. À quelques jours de cette date, les partis se réclamant de lui ont décidé de s'entendre pour créer un bloc. Et ne manquez pas la musique de Roger Mounto et les sports en fin d'émission. Pour l'instant, le journal.
Au moins 18 personnes ont péri en Guinée dans le naufrage d'une pirogue surchargée vendredi. Une vingtaine de passagers étant toujours portés disparus, selon un nouveau bilan annoncé dimanche soir par la télévision nationale. Un précédent bilan faisait état de 10 morts, 18 rescapés et une trentaine de disparus dans ce naufrage près du port de Benti dans le sud du pays. Le préfet maritime a souligné qu'il restait une vingtaine de disparus, précisant que l'embarcation transportait 61 personnes et non 69 comme annoncé précédemment.
Épidémie d'Ebola au Libéria, les travailleurs de la santé menacent d'entamer une grève aujourd'hui s'ils ne perçoivent pas de primes de risque revalorisées. Et ici aux États-Unis, le président Barack Obama a appelé les responsables de la santé à prendre des mesures plus strictes après la découverte au Texas du premier cas d'infection dans le pays. Timothée Donangmaï.
En plus de leur salaire qui se situe entre 200 et 300 dollars par mois, des milliers de membres du syndicat des travailleurs de la santé du Libéria exigent une prime de risque mensuelle de 700 dollars, faute de quoi ils entendent rester à la maison jusqu'à satisfaction de cette demande. Le Libéria est le pays le plus touché par l'épidémie d'Ebola et a enregistré plus de 2300 morts. Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a demandé hier aux responsables nationaux de la santé de prendre des mesures immédiates pour une application plus stricte du protocole de traitement des malades présentant des symptômes de l'Ebola. Le chef de l'exécutif américain a discuté hier avec la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Sylvia Burwell, suite à la découverte du tout premier cas d'infection ici aux États-Unis. Une infirmière qui avait aidé à soigner le Libérien Thomas Duncan, décédé la semaine dernière de l'Ebola à Dallas.
En République centrafricaine, le Premier ministre Mahamat Kamoun a appelé hier ses compatriotes à reprendre normalement leurs activités ce lundi. Il a assuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour faciliter cette reprise du travail. Son appel intervient après plusieurs jours de violence dans Bangui. La réaction de Noël Ramadan, secrétaire général adjoint de l'USTC, l'Union syndicale des travailleurs de Centrafrique.
Après ces moments, ces jours que nous avons connus, de grandes perturbations, il paraît légitime pour le premier ministre, chef du gouvernement, d'appeler l'ensemble des travailleurs centrafricains à la reprise du travail. Bon, maintenant, est-ce que toutes les conditions sont réunies? Je sais qu'il y a eu battage médiatique pour inciter tout le monde à reprendre. Le transport public, les taxis mêmes, les conducteurs de taxi et bus ne sont pas restés à la traîne. Mais en même temps, la question sécuritaire, je pense que c'est l'inconnu. Nous avons les forces internationales, on les voit ces jours-ci, depuis 48 heures, prendre possession des rues, sillonner, etc., etc., enlever les barricades, etc. Mais bon, est-ce que c'est déjà suffisant pour que la reprise soit effective? Tant que la sécurité des uns et des autres continuera à être menacée, il sera difficile de répondre positivement et puis immédiatement à l'appel du Premier ministre, chef du gouvernement, de mon point de vue.
au Cameroun voisin. Toujours pas de précision sur les circonstances de la libération dans la nuit de vendredi à samedi de 27 otages de Boko Haram. Il s'agit de 10 Chinois et de 17 Camerounais enlevés respectivement le 16 mai à Ouaza et le 27 juillet à Kolofata dans l'extrême nord camerounais. Parmi eux, l'épouse du vice-premier ministre camerounais Amadou Ali, le chef traditionnel de Kolofata. Les anciens otages ont été acheminés par avion militaire à Yaoundé. Le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Chiroma Bakari, a démenti les allégations de paiement de rançon ou de transfert d'armes aux ravisseurs.
Écoutez, est-ce que vous pensez que le président du Cameroun souhaite donner des armes à des ennemis du Cameroun, des gens auxquels il a déclaré la guerre, leur donner des armes pour qu'ils retournent ces armes-là contre le Cameroun? Vous pensez que c'est quelque chose de pensable? Ceci était simplement de l'invraisemblance des déclarations qui sont postées sur Internet ou qui viendraient des uns et des autres. Que les gens disent encore qu'ils ont exigé de l'argent ou autre chose, on comprend. Mais ils sont en guerre avec le Cameroun. Et vous pensez que le Cameroun doit leur donner des armes pour qu'ils combattent le Cameroun? C'est invraisemblable, incroyable.
S'il n'y a pas eu paiement de rançon ou transfert d'armes, est-ce que c'est à l'issue d'une opération militaire qu'ils ont été libérés?
Je ne saurais vous dire quoi que ce soit qui mette en danger la vie de nos soldats sur le terrain. Vous savez, c'est pas des choses qu'on raconte au marché, surtout quand il s'agit d'une radio comme la Voix de l'Amérique avec un rayonnement.
En Somalie, au moins 10 personnes ont été tuées dans l'explosion d'une voiture piégée à Mogadiscio, la capitale. 15 autres personnes auraient été blessées lors de l'explosion qui a eu lieu dimanche devant un hôtel et un café populaire. Les autorités ont pointé du doigt le groupe islamiste Al-Shabaab, auteur de nombreuses attaques similaires dans le pays. Par ailleurs, des hommes armés ont tiré et blessé un journaliste somalien travaillant pour une chaîne de télévision indépendante à Mogadiscio.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dimanche sanglant en Irak, au moins 50 membres des forces de sécurité kurdes ont été tués dans 3 attentats suicides. Les voitures piégées ont explosé dans un complexe du gouvernement irakien au nord de Bakuba à Karatapa, au moment où des anciens combattants kurdes se faisaient recruter. Au moins 60 personnes ont été blessées dans les attaques. Un chef de police a été tué par une bombe artisanale. La province d'Anbar.
Un attentat suicide a visé ce matin un convoi de l'ISAF à Kaboul, tuant un civil afghan, mais sans faire de victimes parmi les militaires étrangers, a indiqué sur compte Twitter le général Mohammad Ayoub Salanghi, vice-ministre de l'Intérieur de l'Afghanistan. De son côté, le service de presse de l'ISAF a précisé à l'AFP qu'aucune victime n'était à déplorer du côté des troupes de l'OTAN.
Crise en Syrie, les combattants kurdes continuent de freiner l'avancée des militants de l'État islamique à Kobané, où de violents combats se poursuivent pour le contrôle de cette ville près de la frontière avec la Turquie. Par ailleurs, le commandement militaire américain a déclaré que ses avions de combat ainsi que ceux de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis ont effectué 3 frappes aériennes samedi et dimanche dans Kobané, détruisant l'une des positions de combat des insurgés et une zone de transit.
Le puissant typhon Wangfang a frappé ce lundi le cœur du Japon après avoir déjà fait 44 blessés et un disparu, un Chinois emporté par des vagues. Selon un porte-parole de l'Agence de météorologie nationale cité par l'AFP, le centre du typhon a touché terre à Makurazaki sur l'île de Kyushu, accompagné de rafales de vent allant jusqu'à 180 km/h. Plus de 300 vols ont été annulés selon la chaîne publique NHK.
Et puis toujours en Asie, la police de Hong Kong a commencé tôt ce matin à enlever les barricades érigées depuis plus de 15 jours par les manifestants pro-démocratie. Selon l'AFP, des dizaines de policiers avaient pris place tôt lundi matin sur les sites où les manifestants tiennent depuis plus de 2 semaines des rassemblements paralysant une partie du grand centre commercial asiatique. Les manifestants menés par des mouvements étudiants exigent de Pékin la garantie d'une démocratie totale pour l'ancienne colonie britannique.
Enfin, la communauté internationale a promis dimanche au Caire 5,4 milliards de dollars d'aide à la bande de Gaza dévastée par 50 jours de guerre cet été. Le Qatar a promis de très loin la plus grosse contribution lors de la conférence internationale pour la reconstruction de Gaza avec 1 milliard de dollars. Washington a pour sa part annoncé une aide immédiate de 212 millions sur un total de 400 millions de dollars sur un an et l'Union européenne une somme de 450 millions d'euros. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est montré très ferme, exigeant la reprise des négociations de paix israélo-palestinienne.
Voilà pour le journal. Il est 6h10 en temps universel, 2h10 ici à Washington. Merci à Anne Alberson. On commence tout de suite par la situation de l'épidémie d'Ebola. Et selon le dernier bilan officiel en Guinée, 1405 cas ont été enregistrés depuis le mois de mars. Trois localités sont nouvellement touchées par le virus. Et plusieurs autres ont enregistré de nouveaux cas cette semaine. C'est dans ce contexte que les services sanitaires de ce pays ont annoncé que la lutte contre l'épidémie d'Ebola doit se faire en synchronisation avec le Libéria et la Sierra Leone. La Coordination nationale guinéenne de lutte contre l'épidémie entend mettre en service des radios communautaires pour mieux sensibiliser les populations. Le point à Conakry avec Zakaria Camara.
Au total, 146 patients sont hospitalisés dans les différents centres de traitement du pays. Conakry, la capitale, en compte 54. Les autorités sanitaires qui donnent ces chiffres ont annoncé la mise en place des radios communautaires pour la sensibilisation et l'opérationnalisation du plan synchronisé de riposte entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Dr Sakoba Keïta, coordinateur national de lutte contre Ebola.
Je persiste, la Guinée ne pourra pas connaître la paix tant qu'il n'y a pas un contrôle simultané comme ça est en train d'être préparé maintenant dans les trois pays. C'est très difficile de contrôler le mouvement des hommes. C'est vrai, on n'accuse pas le Libéria parce qu'il y a certains aussi qui ont quitté ici pour aller vers là-bas. C'est les mêmes familles, ils vont des va-et-vient. Il y a certaines localités qui ont même interdit les salutations post-mortem jusqu'à la fin de l'Ebola. Mais il y en a d'autres qui continuent. Au moment où je vous parle, il y a deux personnes de Conakry qui sont parties s'infecter à Massanta. Ils étaient partis pour des salutations post-mortem, alors qu'à la radio, on a dit de ne pas le faire.
Changer de mentalité, abandonner certaines pratiques traditionnelles, voilà ce que demande la coordination de lutte contre Ebola. Une fièvre hémorragique qui a fait plus de 600 morts en Guinée sur plus de 1000 cas confirmés depuis le mois de mars. Autre chiffre. Au total, 346 patients sont sortis guéris d'Ebola. Certains parmi eux se sont engagés dans la sensibilisation. Bakary Oulare, médecin.
Je suis un médecin guéri d'Ebola. Notre objectif principal, c'est la sensibilisation. C'est de faire croire à la population que c'est une maladie qui existe bel et bien en Guinée et que ce n'est pas une fatalité. Mais on peut être guéri d'Ebola si toutefois on est admis très tôt dans un centre de traitement. Notre association pensera à surtout des enfants orphelins. On a beaucoup de parents, de beaucoup de familles qui ont perdu des personnes ressources. Donc toutes ces personnes-là aujourd'hui sont abandonnées ici sous de la belle lune. Ils ne savent même pas de quoi faire. Il y en a qui ont perdu leur emploi, il y en a qui ont perdu leur revenu.
Trois préfectures ont été nouvellement touchées durant la semaine, alors que 17 autres ont signalé de nouveaux cas. Et devant l'évolution de la maladie, la coordination nationale compte construire 8 centres de traitement supplémentaires et 16 centres de transit dans les localités touchées au sud du pays et dans les périphéries de la capitale. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
En Côte d'Ivoire, un groupe de travail des Nations Unies sur l'utilisation du mercenaire a séjourné pendant 4 jours dans ce pays. Durant cette mission, le groupe a reçu des informations concordantes selon lesquelles les deux parties opposées pendant la crise de 2002 et celle de 2011 aurait utilisé des mercenaires, des hommes qui auraient commis des violations graves des droits humains à l'encontre de la population civile. D'Abidjan, la correspondance de Germaine Dré.
En dépit des initiatives prises par le gouvernement pour faire avancer le processus de réconciliation, le groupe de travail affirme avoir observé un manque de justice et de réparation aux victimes. D'autre part, le groupe note que l'action judiciaire est perçue par la population ivoirienne comme ne s'appliquant pas avec la même efficacité aux deux parties. Pour toutes ces remarques, le groupe de travail sur l'utilisation des mercenaires recommande le renforcement des processus d'enquête relatives aux violations des droits de l'homme, de lutte contre l'impunité, de réparation, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Madame Patricia Arias, présidente du groupe de travail, estime que des mercenaires pourraient être identifiés si le séjour était long.
Il y a eu des mercenaires qui se plaignaient parce que quelqu'un qui les a engagés pour venir ici en 2010 leur a offert une quantité d'argent. Ils sont venus, ils ont lutté, mais la quantité d'argent n'a pas été payée. Alors, on pourrait même imaginer presque un syndicat des mercenaires. Les informations disent que les mercenaires sont recrutés spécifiquement, majoritairement au Libéria. Mais ils viennent aussi d'ailleurs. Alors, en général, ce sont des étrangers qui habitent les pays voisins. Mais on encourage les gouvernements de continuer les enquêtes pour arriver à savoir qui sont ces mercenaires et les poursuivre judiciairement et les sanctionner, parce que c'est un premier pas pour réparer aux victimes des violations des droits de l'homme.
Pour Anton Kaz, membre du groupe, une coopération avec les pays membres de la CEDEAO peut aider à l'identification des mercenaires.
L'une des recommandations que nous allons faire sera qu'il y ait une coopération au niveau des gouvernements de la région pour que ces gouvernements travaillent ensemble pour obtenir davantage de renseignements, d'intelligence sur le terrain pour pouvoir coopérer contre ce phénomène.
L'objectif de cette mission est de répertorier les informations et faire des observations avant la présentation du rapport détaillé au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en septembre 2015. Jean Mendry, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Burkina, à quelques jours donc de l'anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, ses héritiers appelés Sankaristes ont décidé de s'entendre pour créer un bloc. Ainsi est né le FPS, Front Progressiste Sankariste, regroupant trois partis politiques. Il a été porté sur le fonds baptismaux le samedi dernier à Ouagadougou. La correspondance de Zoumana Wonogo.
La maison du peuple de Ouagadougou qui a accueilli l'événement faisait penser au moment fort de la révolution d'août 83. Les slogans ont fait leur retour, même s'ils ont été remis à l'air du temps. Morceau choisi.
Les tripatouilleurs de la Constitution. La justice pourrie. Justice. Justice. Thomas Sankara. Les crimes impunis. En avant. Où le pouvoir?
C'est dans cette ambiance qu'après avoir dépeint le tableau noir de la situation sociopolitique du Burkina, le tout nouveau président, Maître Stanislas Sankara, a déclaré la naissance du Front.
Le Front progressiste sankariste se veut être une réponse à l'appel collectif du peuple burkinabé qui exige l'unité des sankaristes comme gage d'un changement alternatif.
Le Burkina Faso compte au moins une dizaine de partis se réclamant du sankarisme. Alors, pourquoi une union entre seulement trois partis? C'est la question posée à Maître Stanislas Sankara.
Oui, parce que simplement les uns et les autres n'étaient pas prêts. Nous avons évolué avec les partis politiques qui étaient prêts, mais ce n'est qu'une histoire de temps. L'unité ne se décrétant pas, elle va certainement se réaliser. Nous souhaitons simplement qu'elle puisse se faire sur des bases objectives et dans l'intérêt de notre peuple.
Le Front progressiste sankariste n'est pas le premier essai d'union entre les partis sankaristes du Faso. Nous avons rencontré Nongma Ernest Ouedraogo. Lui a été le premier président de l'Union des partis sankaristes qui a fait long feu. Voici ses sentiments sur le front.
Justement, après moi, bon, voilà qu'aujourd'hui, en tout cas, les sankaristes se retrouvent encore pour faire l'unité. Je crois que c'est positif parce que en se retrouvant comme ça par groupe concentrique, je pense qu'un jour viendra où tous les regroupements vont se regrouper à leur tour pour constituer le parti sankariste unifié.
Pour Moussbila Sankara, oncle de Thomas Sankara et secrétaire chargé des anciens du front, cette fois-ci sera la bonne. Et pour cause.
Ce sont des gens éprouvés par toutes les vicissitudes de la division qui se sont retrouvés. Alors donc, il y a toutes les chances pour que ça réussisse. Parce que ceux qui se sont réunis là, ils ont vécu les affres de la division.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, Awaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En RDC, l'enlèvement des personnes est devenu monnaie courante au nord Kivu. Cette pratique est à la mode dans la ville de Butembo, au nord de Goma, et sur le tronçon routier Rutshuru-Butembo, plus particulièrement dans le parc des Virunga. Cette nouvelle forme d'insécurité inquiète bien sûr les habitants du Nord Kivu, surtout que les services de sécurité ne parviennent pas encore à bien localiser les auteurs de ces actes. Primo Pascal Rudaigua est notre correspondant à Goma.
Les ravisseurs exigent toujours une rançon pour libérer les personnes prises en otage. Le dernier cas est celui de 4 personnes enlevées dans un bus au niveau de Mabenga dans le parc de Virunga. Elles ont été libérées après avoir payé une rançon de 12 000 $, soit 3 000 $ par personne. Parmi elles figurait un étudiant de l'Institut supérieur de l'informatique et de gestion. Le président du Conseil provincial des étudiants, Ezekiel Kakule, déplore la léthargie des services de sécurité.
Le tronçon Busendo ne doit pas être considéré comme une maison où on entre KOV et on sort KOV. Parce que c'est un tronçon qui devrait être bien sécurisé, surtout que c'est connu depuis longtemps que c'est là où se jouent des kidnappings au jour le jour. Donc c'est un sentiment de regret que nous avons à l'égard du gouvernement, à l'égard des services de maintien de l'ordre et de sécurité. Ils devront vraiment bien sécuriser ce tronçon. Les kidnappings ne doivent pas être considérés comme un marché, comme une affaire.
Le gouvernement du Nord Kivu condamne ces actes. Marie Shemati Baeni est le porte-parole du gouvernement provincial.
Les membres du gouvernement ont condamné ces actes barbares posés par les ennemis de la paix et invitent les services spécialisés à multiplier la vigilance.
Cette pratique reflète l'instabilité et la violence qui persistent dans l'est de la RDC. C'est ce qu'explique Onesforce Matumba, analyste et acteur de la société civile.
Les bandits trient, oui, ils trient des passagers parmi d'autres, comme on peut trier de la marchandise de valeur. Ils réclament leur rançon, c'est-à-dire qu'ils mettent un prix à la tête de ces marchandises humaine. C'est amer, l'instabilité et la violence persistent à l'est de la RDC.
Quelques bandits ont été arrêtés dans la ville de Butembo. Ils sont suspectés auteurs des enlèvements dans cette partie de la province du Nord Kivu. Ils ont été présentés à la population par le maire de Butembo, Sikuli Vasaka.
Ce groupe qui avait enlevé Kinyewe, ce même groupe avait enlevé Zefani, c'est ce même groupe qui avait enlevé Mali, ce même groupe a attaqué Ekambiste ici dernièrement.
Depuis Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
Écoutez le monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, c'est l'heure des sports et j'accueille Timothée de Nangmaï. Bonjour Timothée.
Bonjour Bagassi.
Les Américaines, sacrée nouvelle reine du volleyball à Milan.
Team USA a défait la Chine par 3-7-1 en finale du Mondial Dames de volley. Médaillée d'argent en 1967 et 2002, les Américaines décrochent ainsi leur première couronne en volley.
Les Américaines, qui étaient également les meilleures au championnat du monde de gymnastique à Nanning, en Chine.
Elles doivent une fière chandelle à Simone Biles, qui a remporté 4 médailles d'or et une médaille d'argent, soit la moitié des médailles américaines à Nanning. Le pays hôte, la Chine, a fini deuxième avec 7 médailles, dont 3 d'or.
Et nous restons toujours avec les dames, nous rendant cette fois-ci en Namibie, où se joue la phase finale de la 9e CAN TN Mobile.
En première journée, dans le groupe A, la Zambie a défait la Namibie 2-0 et le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire 4-2. Dans le groupe B, le Cameroun a battu l'Afrique du Sud 1-0, le même score par lequel l'Algérie s'est imposée face au Ghana.
Chez les messieurs, le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2015 s'est poursuivi en fin de semaine.
Belle affaire pour l'Égypte qui est allée gagner au Botswana 2-0. Même score pour l'Algérie qui a défait le Malawi à Blantyre. Score vierge pour les matchs Lesotho, Angola, Sénégal, Tunisie et Sierra Leone, Cameroun. Défaite à domicile du Congo-Brazzaville face à l'Afrique du Sud 0-2. Belle opération de la Côte d'Ivoire, victorieuse de la RDC chez elle, 2-1. Les autres scores, Mozambique-Cap-Vert, 2-0 pour le Mozambique, Niger-Zambie, 0-0, Ouganda-Togo, 0-1 pour le Togo, Éthiopie-Mali, 0-2 pour le Mali, Gabon-Burkina, 2-0, Guinée-Ghana, 1 but partout, et Soudan-Nigeria, 1-0 pour le Soudan.
En football, cette fois-ci en Europe, suite des matchs de qualification du championnat d'Europe des Nations 2016.
Après sa défaite 2-1 face à la Slovaquie, l'Espagne s'est rachetée en fin de semaine en battant le Luxembourg 4-0. La Slovaquie, elle, a engrangé une autre victoire 3-1 face au Bélarus. et l'Angleterre a défait l'Estonie 2-0.
En tennis, Roger Federer a remporté son 4e titre de l'année à Shanghai.
Il a défait en finale des Masters de Shanghai hier Gilles Simon en 2-7, 7-6 et 7-6.
Et puis Timothée terminant avec le marathon de Chicago avec ce doublé kenyan hier.
Et oui, Bagassi, Eliud Kipchoge est arrivé en tête devant deux autres Kenyans avec un temps de 2 heures, 4 minutes et 11 secondes. Son grand rival, l'Éthiopien Kenenisa Bekele, a fini quatrième. Chez les dames, la Kenyane Rita Jeptu a fini en tête devant l'Éthiopienne Mare Dibaba avec un temps de 2 heures, 24 minutes et 35 secondes.
Voilà, on passe à la page musicale avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. Révélé avec I Love It du duo Icona Pop, puis sur Fancy Diggy Azalea, Charlie XCX a fait ses preuves en solo avec cette chanson Boom Clap. Cette semaine, elle est 8e sur le chart Top 10 American Music.
Avant la sortie de l'album Soccer, la chanteuse dévoile Break the Rules, un nouveau single.
Bagassi, Charlie XCX est sans conteste l'une des révélations musicales de l'année. Déjà en 2013, la Britannique de 22 ans a impressionné la critique et le public en accompagnant avec brio le duo Icona Pop sur le hit mondial hein, qu'on connaît tous, I Love It. C'est avec Boom Clap, hein, la chanson qu'on est en train de suivre ce matin, que la chanteuse a su séduire. 6e de meilleure vente au Royaume-Uni, le titre a grimpé sur la 10e marche du Billboard Hot 100, s'écoulant à 1 million d'exemplaires. De quoi motiver la chanteuse Bagassi à boucler ce nouvel album, c'est normal.
Charlie XCX, Boom Clap. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Bagassi. Bonne journée et merci à nos auditeurs de Libreville pour leur fidélité à la VOA.
Roger Muntu que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h, temps universel. Avec ces notes que s'achève le monde aujourd'hui. Merci à Anne Arveson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. Passez une excellente journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.